C'est pas sorcière. 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 C'est pas sorcière.
Coucou.
Moi, c'est Marion.
Et moi, c'est Louise.
Bienvenue dans C'est pas sorcière.
Le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie.
Et des pratiques ésotériques.
Et vous l'entendez peut-être, j'ai un peu la voix cassée, donc désolée si ce n'est pas l'épisode le plus agréable à écouter. Mais voilà, c'est les aléas de la vie.
J'avais posé mon micro.
Ah ouais, c'est, oui, d'un coup ton son il n'est plus le même.
Pardon.
Peut-être on refait le début.
Oui.
Ou on le garde, c'est rigolo.
C'est les aléas de la vie, tu disais juste avant.
Oui, exactement, voilà. Toi tu as su réparer ta voix. Parce que c'est un problème technique.
Et quand t'as parlé de voix, du coup, j'ai regardé mon micro, il était posé sur la table et je me suis dit, bah, tiens. Normalement, il est dans ma main.
Qu'est-ce qu'il fait là? Bah, de quoi tu vas nous parler De quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
On dirait que t'es en train de muer.
Oui, c'est trop drôle.
Aujourd'hui, je vais parler de... Alors, je savais pas trop comment intituler ça. La magie graphique slash les inscriptions en magie. Là.
Ok.
C'est large.
Ouais.
Et toi, tu vas parler de quoi?
Je suis curieuse. Moi, je vais te parler de la Brinvilliers.
Si c'est...
Eh ben, c'est une personne.
Ah! On aurait dit une plante. Genre toxique.
Eh ben, il y a un lien avec les poisons.
Ouh! Donc, nice. J'adore.
On y va, c'est parti?
Ouais.
Alors, donc je vais te parler de Marie-Madeleine Dreux d'Aubré, aussi connue sous le nom de la Brinvilliers. Et avec cette personne, je vais te parler surtout de l'affaire des poisons et de la fin de la chasse aux sorcières en France.
Ok, je vois où tu vas.
Ouais. Bon, comme il y a beaucoup de sujets, rentrons tout de suite dedans. Donc, Marie-Madeleine Dreux d'Aubré est née en 1630 à Paris, dans une famille plutôt aisée. Donc, vous voyez, tout de suite, parisien, aristocratie.
Ok.
Alors que je viens à peine de commencer, je dois déjà faire un trigger warning. Elle n'a pas eu la meilleure enfance, puisqu'elle est violée par un des domestiques de la famille. Et par la suite, elle aurait eu des relations incestueuses avec ses frères.
Ah.
Voilà, donc léger traumatisme sur son enfance. En 1551, à 21 ans, elle va épouser Antoine Gobelin, marquis de Brinvilliers, d'où son nom, la Brinvilliers, et elle aura 5 enfants avec lui.
Oh.
La petite famille des Brinvilliers, ils vivent à Paris et ils fréquentent la haute société parce qu'ils sont riches. Et les deux époux ont beaucoup de liaisons. Liaison amoureuse
et liaison dangereuse,
probablement vu la suite. Et ils dépensent aussi sans compter, ce qui manque de les ruiner plus d'une fois. Donc ils ont une vie de ouf. Cependant, le père de la nouvelle marquise de Brinvilliers, du coup, notre protagoniste, il n'est pas fan d'avoir une fille qui a des aventures extra-conjugales.
Ah, ça l'embête.
Donc, ouais, lui, c'est pas trop à la mode au niveau moral de l'époque, enfin, même moral d'aujourd'hui. Donc, lui, ça l'embêtait que sa fille fasse ça. Et donc, il va réussir à faire emprisonner un des amants de sa fille.
Ok, c'est radical quand même.
Ouais.
Une petite Sauf conversation aurait pendant... peut-être suffi.
Sauf que pendant les 6 semaines où cet amant va être emprisonné, son compagnon de cellule est un empoisonneur. Et comme ils ont probablement pas grand chose à faire en prison, il va lui apprendre le métier d'empoisonneur.
Oh, c'est génial, j'adore cette histoire.
Et donc, l'amant, une fois libéré de prison, il va évidemment retourner dans les bras de la Brinvilliers parce que il n'était pas parti de son accord. Et il va lui transmettre tout ce qu'il a appris en prison.
Ben oui, Ça, c'est la joie du partage.
Voilà.
C'est juste quelqu'un de généreux.
Et ça, ça va beaucoup lui plaire à la Brinvilliers, puisqu'elle va se mettre à empoisonner des gens. Ouais.
Ah oui, bah forcément. Elle voulait pas apprendre que la théorie.
Voilà.
Ça devait être frustrant.
Et c'est là... Donc, vous attachez pas trop à son personnage, hein, parce qu'elle va d'abord tester ses poisons sur des malades. Super sympa. Ou encore sur sa femme de chambre.
Ah.
Génial.
Mais attends, quel honneur. C'est quand même quelqu'un qui te prépare ton lit et qui t'habille et tout, et toi tu l'empoisonnes. Ça va.
Oui, mais c'est pour tester.
Ah oui, bah si c'est pour tester, alors ça va.
Et comme elle a constaté que les décès suite à ces tests passent pour des morts naturelles, eh ben allez, on y va, c'est parti. Donc elle va empoisonner son père, qui a fait emprisonner son amant.
Ah,
elle
oui.
va emprisonner ses frères. Empoisonner, pardon, ses frères.
Mmh. Non, c'est je comprends d'un côté, franchement. Quand il n'y a pas de justice.
Tuons-nous même les gens. Et son mari, dans un éclair de lucidité, il va quitter le foyer et aller s'installer à la campagne, ce qui, je pense, est une des meilleures décisions de sa vie, parce que j'aurais pas fait cher de sa peau.
C'est la meilleure chose qui lui soit arrivée, finalement, cette histoire de poison. Il est à la campagne, le gars.
Oui, c'est clair.
Mieux qu'un confinement.
Sauf que, petit plot twist, alors que la Brinvilliers continue avec ses petits poisons, son ancien amant, qui lui a pris le métier, va décéder accidentellement. Et quand on va débarrasser l'appartement de... Non, et vraiment, il décède vraiment accidentellement. Sauf que quand on débarrasse les affaires de cette personne, qu'on vide son appartement, on va retrouver plusieurs lettres de la marquise où, qu'il avait gardées probablement pour la faire chanter, parce que dedans, elle raconte comment elle a tué son père à l'aide d'un mélange d'arsenic et de bave de crapaud.
Mais enfin, il ne faut pas écrire ça
Mais j'imagine tellement la petite lettre. Comment tu vas, moi, aujourd'hui ? J'ai tué papa à l'aide d'un mélange d'arsenic et de bave de crapaud.
Sinon, au dîner, on a eu du bouillon.
C'était sympa. C'était quand même meilleur quand j'avais pas tué ma femme de chambre.
Mon Dieu.
Et du coup, cette découverte, ça va être le début d'une série de scandales qui vont marquer le règne de Louis XIV, puisqu'on est à l'époque du règne de Louis XIV, et qu'on va appeler l'affaire des poisons. Ouais. C'est une affaire notamment qui est très connue parce qu'elle touche l'aristocratie.
Ah oui, toujours.
Du coup, évidemment, Colbert, un des principaux ministres de Louis XIV, va prendre les choses en main. Parce que, bah, comme c'est un crime qui se passe au sein de la noblesse, il faut tout de suite intervenir. Il va faire arrêter la Brinvilliers. Alors, la Brinvilliers avait tenté de fuir en Angleterre, il a réussi à la faire arrêter. Et on va aussi arrêter plusieurs de ses proches qu'on accuse d'être complices.
Et
on va retrouver, ça. Entre autres... Ouf, je crois qu'ils étaient tous plus ou moins complices.
Ah ouais.
On va retrouver des lettres de confession de la Brinvilliers. C'est dans ces lettres qu'on retrouve notamment ses témoignages sur ses traumatismes d'enfance. Mais elle parle aussi de pyromanie dedans. Et c'est un peu compliqué du coup pour les historiens de savoir ce qui est vrai ou ce qui est du délire vu son état psychologique à ce moment de sa vie. Donc c'est pour ça que sur ce qui s'est passé sur son enfance, elle l'a dit, mais elle l'a dit à un moment où c'était peut-être pas le plus clair dans sa tête.
Oui, et puis si elle a fait des lettres de confession, déjà, c'était pas très clair dans sa tête. Qui fait ça ?
Et surtout qu'ensuite, elle va revenir sur ses propos, puisqu'elle va être torturée et refuser d'avouer. Et elle sera ensuite décapitée en place publique, et son corps sera brûlé. Voilà, super fin. Avant son exécution, son procès, il est quand même très très médiatisé. Il va être rapporté, il va être même romancé par des gens pas trop connus, genre Madame de Sévigné ou Alexandre Dumas. Voilà, oui. Un peu classe.
Des inconnus au bataillon.
Ouais.
Et puis,
Donc ça...
il va y avoir cette affaire des poisons dans la série Versailles, qui a été tournée exclusivement à des acteurs pas français.
Ah ouais?
Bah,
Mais.
je crois que tous les rôles principaux, ils sont soit anglais, américains, si, et t'as la fameuse empoisonneuse qui, elle, est jouée par Suzanne Clément, qui est québécoise, elle, mais qui parlait en anglais, du coup, dedans,
Alors, c'est la
dans la
Brinvilliers ou
version
c'est une autre?
originale. Il me semble que c'est la Brinvilliers.
Parce que, attention, suite de l'histoire, j'ai pas fini. Parce que ça,
Ah.
c'était donc l'histoire de la vie de la Brinvilliers. Mais l'affaire des poisons, elle s'arrête pas là.
Ah,
Puisque
c'était peut-être que
7 ans.
la maître et ensuite
C'est.
des apprentis.
Ouais, en fait, c'est. Je te raconte. 7 ans après du coup la condamnation de la Brinvilliers, l'aristocratie française va être à nouveau secouée par cette affaire des poisons. Cette fois aussi mêlée avec des histoires de messes noires. Vous vous demandiez depuis tout à l'heure pourquoi elle nous parle de cette histoire dans un podcast sur la sorcellerie. On y arrive. Et on va aussi arrêter une nouvelle empoisonneuse, Catherine Dehaie, dite la voisin.
Ah, c'est bon, c'est elle. C'est elle,
Ouais,
Suzanne
c'est la
Clément.
plus connue.
Je savais pas que c'était une copycat.
Et alors, ce drame, il va jusqu'à toucher la sphère du roi. C'est pour ça que la voisin, elle est plus connue, parce que on dit que la voisin est très proche de Madame de Montespan, qui est la maîtresse du roi. Donc, si la maîtresse du roi participe aux messes noires, c'est un peu embêtant. Et du coup, on va avoir une panique totale. En 3 ans, il y a 442 personnes qui vont être accusées,
Ouais.
36 personnes qui vont être condamnées à mort.
Waouh, c'est
Et
vraiment beaucoup.
beaucoup des accusés sont des femmes. Donc, encore une fois, si vous voyez pas le lien entre l'histoire des poisons et la chasse aux sorcières, vous pouvez le retrouver un peu ici,
Est-ce que c'était
dans le fait
avant
que
ou
c'est
après
une.
que ce soit, enfin, de notoriété publique que le poison soit une arme, je cite, de femme? Est-ce que ça n'a pas un peu influencé le...
Très bonne question. Je n'ai pas la réponse. Est-ce que ça a construit le mythe? Après, il y avait quand même beaucoup d'hommes qui
Le
étaient
mythe expliquait quand
liés
même
à
ça,
cette.
mais c'était peut-être plus simple d'accuser des femmes en
Ouais.
majorité.
Et même si, en tout cas, la sorcellerie, c'est plus aussi populaire qu'au début de la Renaissance. On a toujours le même principe que la chasse aux sorcières, puisque on a une panique morale qui fait qu'on accuse tout le monde. Les personnes accusées ont droit à des procès qui n'ont rien à voir avec un procès juste et équitable. Donc, à la place de dire sorcière, on a dit empoisonneuse, quoi.
Ouais, plus simple.
Et sauf que cette affaire, ça va être l'affaire de trop pour l'État, parce que l'État va comprendre que les chasses aux sorcières, ça lui échappe complètement. Et c'est encore moins fun pour lui quand ça touche son entourage et pas les pauvres dans un village au loin. Là, c'est quand même ça, c'est la maîtresse du roi, quoi. C'est
Il
vraiment
faut
la
le
personne la
bordel dans
plus
la
proche du roi.
cour. On s'amuse beaucoup moins.
Voilà. Et donc, Louis XIV va faire publier le 29 août 1682 un édit intitulé Déclaration du roi contre les magiciens, sorciers et
Oh,
empoisonneurs.
j'adore! Le titre est génial.
On connaît aussi cet édit sous le nom de l'ordonnance des poisons. Et du coup, cette date et cet édit, c'est ce qui est souvent marqué comme la date de la fin des chasses aux sorcières. Alors, ça ne veut pas dire qu'à partir du 29 août 1682, c'est bon, tout le monde s'arrête, puisque je vous ai déjà parlé d'histoires qui se passent plus tard. Mais c'est juste que c'est vraiment le tournant qui va faire que maintenant on est dans un déclin drastique. Et en plus, cette fois, on a un cadre juridique qui fait que c'est encore plus complexe de faire des chasses aux sorcières. Donc voilà, je vous ai fait une version très abrégée de l'histoire des poisons et je vous invite vivement à en lire beaucoup plus si ça vous intéresse parce que bah, moi, je trouve que c'est une histoire passionnante. Il y a plein de rebondissements dignes des meilleures séries télé. Et par exemple, je ne vous ai pas raconté en détail parce que ça aurait été trop long, mais la Brinvilliers, elle est arrêtée grâce à un espion qui est déguisé en prêtre.
Ah,
Il
oh, j'adore.
s'appelle Gabriel Nicolas de la Reynie et c'est le premier lieutenant de police de Paris.
Oh.
Et c'est vraiment des histoires incroyables. Moi, je les ai découvertes en fait quand j'étais enfant, enfant-ado. Il y avait des séries de romans de Annie Pietri, L'espionne du roi Soleil et Les orangers de Versailles. Et dedans, on a toute cette affaire des poisons. Et comme ça me fascine toujours, et que en plus, c'est un peu l'événement historique qui marque la fin des chasses aux sorcières en France, et ben, je me suis dit que ça serait chouette de vous en parler aujourd'hui.
Je savais pas que ça avait fait un peu
Voilà!
jurisprudence, entre guillemets, sur les chasses aux sorcières.
Ouais, bah il faut vraiment que ça touche les personnes qui font la loi pour que...
Là, vraiment, il y en a marre.
Pour...
Ça suffit.
Ouais. Bon, quand c'était entre vous, là, à l'autre bout de la France, ok.
Les
Mais
pécho, ils
là,
font ce
c'est
qu'ils
moins
veulent, mais à la
rigolo.
cour, on est chic. Ok.
Et tu connaissais du coup les romans de Annie Pietri?
Non, mais ça me dit quelque chose parce que je sais que quand j'étais en sixième, on avait tous plus ou moins à lire genre des romans poche jeunesse autour de faits historiques. Et moi, j'avais pas eu ceux-là,
Ok.
j'avais eu ceux sur l'Antiquité, l'Égypte, et je sais plus comment ça s'appelait d'ailleurs. Mais ouais, donc je vois à peu près
Ouais,
de
c'était
quelle
très à
histoire.
la mode quand on était au collège.
C'était plus simple, je pense, pour les profs d'histoire et les profs de littérature, enfin de français, de se tenir la main et de s'allier.
Ah, il y avait plein de séries. Moi, j'avais aussi il y avait une série de bouquins qui s'appelait Les Colombes du Roi Soleil, sur plein de
Wow.
jeunes filles qui vivaient des aventures, tout à l'époque de Louis XIV. Du coup, j'ai eu une période dans mon enfance où j'étais à fond époque Louis XIV.
Intéressant. Je crois que j'ai jamais eu une période à fond à Louis XIV. Mon père est très fan de Louis XIV. Autant qu'on peut l'être, bien sûr, sans être royaliste.
Bah, c'est un peu fascinant quand même.
Je le soupçonne surtout d'être fan de Le Nôtre parce qu'il aime la nature et les jardins.
Ouais.
Mais ouais, non, mais c'était plutôt l'Antiquité, mon
Ton
dada.
délire.
Bien, bah, en tout cas, ça m'a donné
Eh
envie de
ben,
lire
parle-nous pas
des
d'antiquité,
de
du
sujets.
coup.
Bah, un petit peu quand même, vite fait. Mais
Ah
pas tout le temps. Vous allez voir, ça va partir un peu dans tous les sens. Désolée.
ouais? C'est pas grave, on aime bien.
J'aime bien nos chroniques parce que généralement, les tiennes, bah, du coup, elles sont chronologiques vu que ça parle d'un événement. Et les miennes, elles sont rhénologiques. Ça va. Il n'y a pas de progression logique. C'est parti.
Chaotique.
Yes, chaotique énergie. Du coup, ça va ressembler un petit peu à ma chronique que j'avais faite si vous aviez écouté sur la magie du son. C'est-à-dire que ici, je vais parler globalement de tout ce qui est inscription dans la magie. Donc, ça peut être des formes tracées, des dessins plus élaborés, des lettres, des mots, des chiffres. Comment on les utilise en magie, que ce soit sur des objets, sur des endroits, par terre, etc., ou sur soi. Et aussi à quoi ça sert globalement. Donc ça va pas être exhaustif, mais je vais essayer de donner un aperçu global. Voilà.
Ok.
Alors, déjà dans les rituels, moi mon premier contact avec ce truc-là, c'est à l'époque où je cherchais des infos sur des rituels et ce genre de trucs, souvent on te dit de graver un mot, un dessin ou un symbole sur une bougie, parce que c'est plus simple, et ça donne une espèce de précision au rituel, du coup ça précise un peu le but, quoi. Sinon, je peux tout simplement penser au simple fait de tracer un cercle au sel autour de soi, le cercle étant communément une espèce de matrice, parce que ça ressemble à un œuf et ça symbolise dans plein de cultures la protection, parce que ça nous englobe. Ou tout simplement les pentacles en Wicca, c'est vraiment, je pense, le symbole magique aujourd'hui, peut-être le plus connu.
Ouais.
Si bien que je pense qu'il y a plein d'étoiles dans d'autres cultures qui existent, et je pense que si, je sais pas, t'es une gamine de 12 ans fan de magie, et tu vois ça, tu fais ah, un pentacle, pas du tout.
C'est pas ça.
C'est pas ça. Et du coup, il y a plusieurs buts à ces inscriptions-là. Ça peut servir à donc se protéger. Ça peut aussi servir à donc affiner une demande ou à mettre fin à une situation, vraiment dans des buts de sort slash rituel un peu. Ça peut servir à appeler une entité ou à réclamer en tout cas la protection d'une divinité. Par exemple, dans la religion vaudou, il y a les VV. Les VV, c'est des symboles que les prêtres tracent, dessinent, soit autour d'un poteau parce qu'on estime que c'est un endroit de passage pour les esprits, soit sur des objets ou des animaux qu'on va utiliser pour des rituels.
Ok.
Et donc ça, c'est à peu près pour les les buts des inscriptions qu'on trace sur tout ce qui est objet. Alors, ça peut être des symboles, donc des trucs qui signifient d'autres trucs, des dessins qui signifient des choses pour notre cerveau. Donc, ça peut être tout
c'est
simplement
une belle
d'écrire.
Définition, ça.
Voilà, des trucs qui signifient d'autres trucs. genre, bah,
c'est très
les
clair.
Lettres. Bah oui, en plus.
Ouais.
C'est clair et en même temps, c'est pas clair. C'est ça que j'aime bien. Typiquement, pourquoi est-ce qu'on estimerait qu'un livre, par exemple, c'est pas magique? Parce que rien qu'avec des centaines d'inscriptions, on peut provoquer chez une personne des pensées, des émotions. Il y a des livres qui ont changé le monde, que ce soit en bien ou en mal. Ça peut être aussi des chiffres, des dessins, des symboles. Et ces symboles, ils peuvent soit appartenir à notre culture, notre langue, des symboles qui appartiennent vraiment à notre peuple, à nous, soit on peut les inventer soi-même. Et ça s'appelle des sigils, S-I-G-I-L. Et en fait, le but d'un sigil, c'est qu'il est, il est créé par, on le crée soi-même, de toutes pièces, en mélangeant peut-être des lettres, des chiffres, des dessins qui te parlent, qui, en tout cas qui parlent dans le but que tu veux le faire. Je ne sais pas si tu veux faire un sigil de protection. Je ne sais pas si on dit sigil ou sigil. Je sais qu'il y a des gens qui disent les deux, donc je ne sais pas trop quoi dire.
Je sais pas, moi j'aurais dit sigil, ouais.
Sigil, sigil. On dirait un prénom.
On l'assume, sigil, allez.
Sigil. Moi en plus je dis gif. Non, attends, je dis gif. Je sais plus ce que je dis. Parce qu'en fait, je crois que je me suis auto-corrigée au point que maintenant je dis les deux parce que j'ai honte de la de ce que je disais au début.
Moi je dis gif.
Ok.
Et je ne compte pas changer.
Bravo. Ça c'est de
On
la persévérance.
On va recevoir des commentaires haineux.
bref, du coup, les sigils, le but, c'est que ce soit unique et personnel et que tu le crées de toutes pièces avec ce que tu veux. Et j'écoutais des podcasts, il y a des personnes qui s'en servent pour des rituels, il y a des personnes qui les inscrivent chez eux, etc. Et dans un podcast, il y avait deux meufs qui expliquaient qu'elles appliquent leur crème pour le corps ou leur crème solaire en forme du sigil qu'elles veulent pour genre se protéger. Et ensuite, elles l'étalent. Ou par exemple, elle connaissait des gens qui faisaient des sigils de protection sur leur porte, mais juste, elle nettoie leur porte et avec le chiffon qu'elles utilisent, elle trace le dessin de protection. Ouais.
Ok.
Je trouvais ça plutôt drôle. Du coup, pour tout ce qui appartient à une culture donnée, du coup, tu trouves plein de types de symboles utilisés en magie, dans les rituels. Que ce soit des langues différentes, des alphabets différents, mais aussi des symboles anciens, des symboles grecs, des symboles berbères, amazigh, qui sont associés au... Attends, j'ai un trou. C'est la culture kabyle. Et du coup, ça, c'était pour citer que les quelques coins de la Méditerranée, mais en fait, t'en trouves vraiment partout. Et du coup, j'ai pris un exemple, parce que ça m'avait fait penser à ça quand tu parlais dans l'épisode 26 de une histoire de chasse aux sorcières en Islande. Parce que du coup, je suis allée voir un peu du côté de la magie islandaise et j'ai trouvé des superbes symboles magiques qui étaient utilisés pour lancer des sorts. Et certains sont étonnants. Ouais. Je t'avais raconté une anecdote. Tu l'as oublié ou pas?
C'était le truc du cochon, là?
Oui. Ah non, je suis trop triste, j'aurais voulu que tu l'oublies. Bon, c'est pas grave.
Attends, je fais semblant. Non, ça me dit rien.
Et du coup, en fait, d'ailleurs, si vous nous suivez sur les réseaux, ou même tout simplement, je pense que vous voyez l'illustration sur Spotify ou autre, le dessin que j'ai utilisé pour l'épisode 26, en fait, c'est un de
ces... Ah oui,
ces...
parce qu'on l'a jamais dit, mais c'est Marion qui fait toutes les illustrations des épisodes.
Ah oui, c'est vrai, on l'a jamais dit. Oui, c'est moi.
Ouais. C'est vrai qu'à la fin, on remercie tout le monde, on te remercie pas toi.
Ah, attends, je vais me remercier à la fin du podcast, ça va être drôle.
Ouais.
Bah oui, du coup, ce dessin de l'épisode 26, c'est un dessin que j'ai pris d'un... Je sais pas comment on dit, un symbole magique islandais. Et je vais vous raconter en fait quel est ce symbole magique, parce que je l'avais raconté à Louise dans un de mes très rares audios, parce que Louise n'aime pas les audios, donc quand je lui envoie un audio, c'est que vraiment... elle va
c'est
rire.
Écrit, ça va être épique.
Et du coup, j'avais trouvé ça sur un site qui s'appelle Toute l'Islande. Il y a une page qui s'appelle Sorcellerie en Islande et qui détaille plein de symboles. Bon, après, on trouve les mêmes symboles sur Wikipédia ou d'autres sites. Et donc, du coup, c'est un symbole qui servait à rendre amoureuse une jeune fille. C'est pas écrit si ça marche aussi avec un jeune homme, mais je pense que tout est possible. La recette du maléfice, 2 points. Dessinez ce signe sur l'estomac d'un cochon à l'aide du sang tiré de votre téton gauche. Voilà. Déjà, je vous laisse faire une pause là-dessus. Réfléchir à ce que je viens de dire. Et ensuite...
Ne vous trompez pas de téton.
Je réouvre les guillemets. Faites dormir la fille dessus toute une nuit. Elle vous tombera dans les bras. Bah oui, pourquoi pas. Ça me semble logique. Moi, franchement, je dors sur un cochon avec un symbole chelou dedans. Love de ouf.
Un estomac de cochon.
Gros crush. Du coup, d'après le musée de magie et de sorcellerie...
Et à quel moment... Enfin, il donne pas le petit tuto pour convaincre la fille de... Mais si, je te jure, dors là-dessus. Vas-y.
Mais oui. Non, mais je pense qu'ils doivent cacher l'estomac du cochon, genre, sous le lit.
Ouais, mais ça sent. Ça sent méga fort.
Bah, je sais pas, si t'habites à la ferme. Ou peut-être que, genre, l'estomac du cochon, tu peux l'enfermer dans un truc. Ou alors, c'est pas écrit si l'estomac du cochon, il doit être frais. Hein. Ça peut être un estomac de cochon. Séché, peut-être.
Ah.
Parce qu'en plus, en Islande, ça sèche. Enfin, il fait froid. Oui, c'est affreux. Et du coup, ça vient d'un musée en Islande qui est le musée de la magie et de la sorcellerie qui est à Holmavik. Et donc, qui explique un tas de symboles. Et il y en a qui, vraiment pour toutes sortes de choses. Des choses vraiment donc, tout à fait inédites, comme ça. Mais aussi des choses plutôt basiques, comme éloigner les renards, guider les voyageurs par mauvais temps ou éviter de se noyer, ce qui peut être utile quand on habite sur une île et qu'on doit pêcher. Y a aussi les runes qui sont des symboles nordiques. Et fun fact, il y a très longtemps, j'étais en stage. Ah non, c'était pas là. Non, ça c'est une autre histoire. J'étais en stage en Bretagne et j'étais dans une location. Et quand je me suis installée, j'étais à fond dans les runes. Et donc, j'ai pris un coquillage et j'avais mis une rune de protection. Oui, parce qu'il faut savoir que je déteste être pas chez moi. Donc, en fait, comme j'étais en location pendant 2 mois, vraiment, quand je suis arrivée, j'ai mis toutes les bougies et les encens possibles parce que je supportais pas que ça sente pas chez moi. Et donc, du coup, j'ai mis cette rune de protection sur un coquillage en haut d'un meuble à l'entrée. Et en fait, quand je suis partie, je me suis rendu compte que j'ai oublié le truc et que peut-être que prochains locataires ont trouvé ce truc et se sont dit « Ok, c'est hanté !» Il y a une magie, tout va bien. Voilà, ne faites pas forcément ça chez vous ou emportez la rune avec vous, je ne sais pas.
Vrai, moi, je trouve ça, quand je m'installe, je serais trop contente.
Ah oui, mais tu sais pas ce que ça veut dire, la rune.
Bah justement, je chercherai, je ferai des théories et tout.
Oui, c'est vrai, quoi, que si ça ressemble à une rune et que tu sais ce que c'est qu'une rune, tu peux chercher c'est quoi sa signification.
Moi, j'aimerais bien habiter dans un logement hanté, donc déjà, je suis persuadée qu'il y a un fantôme de chez moi. Donc...
Moi, ça dépendrait de quelle sorte de logement hanté, tu vois. À quelle sorte d'entité j'ai affaire. Le problème, c'est que tu peux pas le savoir.
Certes. Ouais, je pense que tu allais raconter comme anecdote, et du coup, je la raconte.
Vas-y.
Qu'une fois, nous étions à une convention et quelqu'un proposait de faire des tirages de runes, donc Marion a participé. Et à la fin, elle te remettait la rune que tu avais tirée et sur laquelle on t'avait donné les explications. Et donc, elle a crié dans toute la convention, toute fière d'elle-même, « Qui veut voir ma rune ?» Et ça nous a beaucoup fait rire.
Et moi, j'ai vraiment pas compris.
Elle passait de personne en personne en disant « Qui veut voir ma rune ?»
Et tu veux voir ma rune ? Et tu l'as vu, ma rune ? Bref. Pour celles qui n'ont pas compris, parce que moi, j'avais pas compris au début la blague, c'était rapport à « Est-ce que quelqu'un veut voir ma lune ?» Voilà. Slash mes fesses.
Voilà.
Il faut expliquer des fois parce que...
Élaboré.
Il y a certaines personnes qui pensent que les blagues sont pas drôles quand on les explique. Et certaines personnes comme moi qui, des fois, comprennent pas les blagues. Donc, voilà. On pense à tout le monde ici.
Tout le monde.
Voilà. Donc, ça, c'était
d'ailleurs, je
pour
pense
les
que
runes.
Le titre de l'épisode, ça sera « Voulez-vous voir nos runes ?»
Attends, on n'a pas fait un épisode où on parlait des runes, déjà ? Non. C'est dans ma tête. Hein.
Non. Oui.
Ah ouais. Qu'est-ce que je disais ? Oui, alors ça, c'était pour les inscriptions sur des objets. Ensuite, on va avoir, de manière moins fréquente, où j'ai trouvé moins de choses là-dessus, des inscriptions à des endroits, mais vraiment des inscriptions très très grandes. Type, par exemple, des formes géantes tracées sur le sol. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça. Alors, genre les trucs dans les champs, les crop circles, ça c'est des... Alors, il y en a qui sont un peu mystérieuses, on sait pas par qui elles sont faites, et il y a des gens qui pensent que c'est des ovnis, mais il existe des lignes en fait qui ont été tracées par des civilisations anciennes. C'est le cas des Mayas dans le désert de, enfin c'est pas un désert, dans la région de Nazca au Pérou. Il y a des immenses, vous pouvez taper ligne de Nazca, vous verrez des immenses hiéroglyphes, vraiment genre ils font 50 mètres de large. Et en fait, il y a plusieurs hypothèses. Il y en a qui disent que c'était donc des terres cultivables, donc que ces inscriptions, en fait, les sillons qu'elles creusaient, ça servait peut-être probablement à irriguer la terre, c'était peut-être un système d'irrigation. Mais en fait, vu le mal qu'on se donne, je pense, pour faire un tel tracé dans le sol, pour qu'il soit vu du ciel, etc., il y a plein donc, du coup, d'archéologues qui pensent, eux, que c'était aussi un endroit de rituel, ou du moins que ces tracés auraient eu une vocation rituelle, type, je sais pas, demander peut-être à une divinité de protéger la récolte, je sais pas. Mais il y a aussi d'autres tracés, typiquement, on n'y pense pas, mais les labyrinthes, ils ont une grande symbolique magique. Ils étaient très prisés dans l'Antiquité égyptienne pour leur puissant pouvoir désorientant, et on s'en servait pour entourer les tombes de hauts personnages, okay. Du coup, parce que les pilleurs de tombes, ça a toujours existé. Et donc, du coup, l'idée, c'était de les piéger là-dedans et qu'ils se perdent. Et ça se rapproche aussi beaucoup du sens qu'a la forme de la spirale dans beaucoup de cultures. Je pense par exemple à la culture celte, où la spirale, ça représente une espèce de cycle, ouais. La progression, mais aussi la transformation, un peu comme un truc qui se, un serpent qui se mord la queue, par exemple. Donc en fait, c'est pas rare de trouver des endroits où tu vois des inscriptions dans la terre de manière très large, ou même où en fait tu vois des traces de bâtiments sur des sites archéologiques qui avaient une forme en fait de dessin. Typiquement, je pense, enfin, les églises, c'est une forme de croix vue du ciel, c'est pas pour rien, quoi. C'est que ça a vraiment une vocation de... Ça évoque quelque chose, c'est un gros symbole. Et autre manière d'utiliser ces inscriptions, le tatouage rituel, slash magique, slash spirituel. Ce qui est très connu et très populaire, c'est les tatouages de protection. Ça varie selon les cultures des personnes, et on les fait pas forcément sur les mêmes zones du corps, on y scrappe les mêmes choses. Donc ça peut être des dessins, ça peut être des signes, des mots, quelle que soit la langue. Et anecdote, j'ai une de mes collègues qui, l'année dernière, passait vraiment un mois de merde, et comme elle croit beaucoup à la magie et aux énergies, elle s'est dit, là c'est sûr, on m'a jeté le mauvais œil. Donc en fait, le matin, avant de venir au travail, elle traçait des talismans de protection berbère sur ses mains, avec du henné, ou au feutre, si elle n'avait pas. Et donc le matin, tu la voyais venir avec ses tatouages de protection parce que le mauvais œil. Et ça, c'est que ce soit des croyances magiques ou non, c'est très répandu de voir ce type de tatouage. Ma tante, par exemple, elle a un attrape-rêve pour la protéger. C'est pas fun de voir des. C'est pas rare non plus de voir des fans d'astrologie se faire tatouer, par exemple, le symbole de Jupiter parce que c'est la planète qui signifie la chance. Ou la lune, mais aussi c'est un symbole de protection. Et fun fact, j'ai tapé tatouage de protection sur Google.
Ah, du coup, quand t'as un tatouage, quand t'as la lune, ça veut dire
protection. Ça dépend si c'était le but de la personne ou pas, mais la lune, c'est l'astre de la sécurité.
Non, ma sœur vient de se faire un tatouage sur lequel il y a une lune, donc je vais lui dire c'est bien
protégé. La lune, c'est en gros, vu que c'est l'astre qui brille dans la nuit et qui nous apporte sécurité et réconfort quand nous sommes des pauvres humains et qu'il y a des prédateurs de type loup.
Perdu.
Non, mais il faut se remettre dans le contexte de quand il y avait encore des loups parce qu'on les laissait vivre. Mais bon.
Oui. Voilà.
Et donc, du coup, très drôle parce que quand je cherchais des choses là-dessus, je tape donc tatouage de protection sur Google pour voir. Et là, il me sort une planche sur Google Images totalement what the fuck de symboles, dont des symboles religieux classiques, normales. Donc, je passe. Et là, il y a aussi une svastika ornée de petits points. Alors, même si je comprends que c'est totalement, à la base, un symbole grec qui était à l'origine positif, qui va se faire tatouer ça en 2024, en fait ?
Depuis, il y a eu un historique qui fait que tu ne peux plus faire.
Moi, personnellement, je vois un mec qui a une svastika dans le cou, je me dis pas « Ah, il adore la mythologie grecque !» mais c'était pas le plus rigolo, le plus surprenant, c'était quand même un marteau et une faucille en mode tatouage de protection. What? C'était très drôle.
La patrie nous protège. Bah ouais.
histoire de te reconnaître entre camarades, je sais pas. Mais du coup, les tatouages rituels, ils servent pas forcément qu'à protéger, ils ont aussi d'autres significations. Par exemple, aujourd'hui, pour certaines personnes issues de peuples colonisés, se réapproprier ces tatouages-là, ça a une vraie dimension thérapeutique qui vraiment peut guérir des traumas anciens. Par exemple, les Inuits ou Inuks, ils ont des tatouages qui sont très importants, qui signifient des passages de la vie, des épreuves que tu as passées. Ça peut être des tatouages que tu décides d'hériter de tes parents, etc. Et en fait, lors de la colonisation, en plus d'interdire le droit à la terre, la langue, les traditions, les croyances, les colons ont aussi interdit ces tatouages qui sont une part vraiment essentielle de leur culture. Et du coup, là, je donne les exemples des natifs américains du Nord, mais c'est le cas de genre partout où on a colonisé. Le fait de se faire tatouer, du coup, c'est beaucoup vu comme les natifs d'aujourd'hui qui ont notre âge et qui n'ont pas connu cette période-là. Comme le fait de se réapproprier quelque chose, de récupérer ce qui est à soi et de se relier à ses ancêtres, ça a vraiment... C'est très fort, en fait. C'est vraiment la limite magique tellement c'est puissant. Ouais. Oui. Et du coup, c'est presque...
J'avais vu une personne... Je pense que tu as peut-être croisé aussi une personne sur Instagram qui fait beaucoup de militantisme sur ce sujet, qui s'était fait tatouer le visage et elle avait fait plein de petites vidéos pour parler de ça.
Si c'est Ninuit, c'est peut-être Shiva Nova. Ouais, c'est une activiste inuit, mais t'as aussi... merde, comment elle s'appelle ? Son nom de famille, c'est Chasing Horse. Attends, je vais chercher.
Ouais, je connais pas.
Et en fait, c'est des activistes sur Instagram. Et en fait, elles se font connaître aussi parce qu'elles font du mannequinat, etc. Etc. Oh !
Ok.
C'était un truc de québécois, ça, de dire etc. Quana Chasing Horse, voilà, c'est elle. qui n'est pas inuite, je ne sais plus exactement d'où elle vient. Mais oui, c'est d'en parler, de fait de montrer ses tatouages, etc. Parce qu'en plus, comme c'est des tatouages qui se voient, parce que c'est des tatouages beaucoup aussi sur le visage, forcément, ça attire, j'imagine, des réflexions racistes, etc. Donc c'est vraiment une volonté de vouloir perpétuer sa culture, de récupérer ce qu'on nous a enlevé. Et si ça vous intéresse, du coup, je vous conseille de confronter les autres au fait que
extérieurement, à nous confronter, enfin le fait assimiler, qu'elle a ça sur le visage,
oui.
De pourquoi moi je me pose des questions, pourquoi je la juge, pourquoi.
Ouais. C'est très intéressant. Et du coup, vous pouvez aller suivre des personnes comme Shiva Nova si ça vous intéresse. Et j'ai aussi trouvé un podcast intéressant qui s'appelle Transformative Marx de Dion Casca. qui interviewe des personnes justement qui sur leur rapport des personnes indigènes sur leur rapport à leur tatouage. Donc je trouvais ça très beau cette manière de voir ces tatouages là. Et de toute manière, je trouve que à chaque fois que quelqu'un parle de son tatouage, enfin c'est quand même rare les personnes qui se font tatouer quelque chose juste pour la beauté du truc. Enfin, ça demande un investissement de la douleur, etc. Donc il faut que ça nous apporte quelque chose en plus de symbolique.
Ah, moi je connais beaucoup de gens qui ont fait juste parce qu'ils aiment bien le tatouage. Ouais.
C'est fou. À chaque fois que je rencontre des gens comme ça, je me dis, tu mens. C'est juste que tu n'as pas envie de me dire la signification de ton tatouage.
Je crois qu'il y a des gens, vraiment, c'est genre, ce dessin est joli, je le veux sur mon corps parce que c'est joli.
Moi, j'aurais trop peur si c'est juste esthétique, de ne plus l'aimer, parce que mes goûts, ils changent tout le temps.
C'est pour ça que je ne suis pas tatouée.
Et c'est pour ça que j'hésite vraiment beaucoup à me faire tatouer. Non mais je me dis au pire je me fais tatouer à un endroit qui se voit pas et
ouais comme ça tu sais plus.
Bah oui. Voilà.
Il y a pas longtemps j'ai écouté un podcast avec des journalistes professionnels et elle a terminé sa chronique une des journalistes par voilà. Et du coup je me suis dit oh on est comme eux.
C'était quoi ton podcast?
C'était Internet Exploreuse. À la base, c'est une émission Twitch. J'en fais la pub parce que c'est trop bien. C'est deux meufs qui parlent de culture Internet. Elles ont toujours une invitée en plus. Et du coup, elles parlent de sujets en lien avec la culture Internet.
Mmh. Intéressant.
Ouais. Eh ben on est bien.
Le temps passer aux anecdotes.
J'ai raté. On peut passer aux anecdotes. Avec la voix de Garou.
Oh, t'exagères. Je pense que t'es juste sur Bonnie Tyler
Ouais.
en forme.
Ah oui. Attends, c'est quoi une chanson de Bonnie Tyler? Total Eclipse of
The heart.
the
Voilà, bien,
Heart.
bien
C'est
bon
la
ça.
partie des anecdotes.
Les anecdotes, pas
Ta-da-da-ou. Alors, pour la
c'est et
blague,
du coup, toi, t'as
au
pas
moment
d'anecdote
où...
aujourd'hui.
Bah voilà,
T'as
parce
une
que quand
recommandation.
je me suis connectée, j'ai
Pour une fois,
discuté
c'est
avec Marion, je me dis,
l'inverse.
eh merde, j'ai complètement oublié. Donc du coup, je suis allée regarder ce que j'ai lu comme livre dernièrement, et super, il y avait un bouquin avec une sorcière dedans, et que j'ai beaucoup aimé, donc je vais pouvoir en parler.
Ah.
Bah du coup, j'y vais. Du coup, je vais recommander un album jeunesse qui s'appelle La Belle et le Fuseau, qui est un conte écrit par Neil Gaiman. Donc,
Évidemment.
si vous n'êtes pas surpris, c'est que, enfin, c'est que vous avez écouté déjà mes 42 recommandations de choses écrites par Neil Gaiman. Et en plus, il est illustré par Chris Riddle, qui est un illustrateur qui a fait beaucoup d'illustrations jeunesse. Et j'aime énormément son style. C'est en noir et blanc avec beaucoup de détails. C'est très joli. Et donc, La Belle et le Fuseau reprend l'histoire de la Belle au bois dormant, mais croisée avec l'histoire de Blanche-Neige. Et en fait, c'est
Oh.
Blanche-Neige qui va aller sauver la Belle au bois dormant, qui donc a été endormie par une sorcière. Et je n'en dis pas plus, mais c'est vraiment
Oh, ça a
extrêmement
l'air
bien.
bien.
C'est vraiment le super conte de fantasy comme on les aime. Avec, y a des nains, il hein, y a des, y a une sorcière évidemment, c'est pour ça que j'en parle maintenant. C'est vraiment les illustrations sont magnifiques, c'est extrêmement bien
Je suis en
écrit.
train de regarder des illustrations de Chris Riddle, c'est très beau.
Ouais, moi je l'ai lu je l'ai acheté en anglais, mais j'ai vu qu'il avait été traduit en français. Alors je ne sais pas si c'est aussi bien, enfin, si c'est très
Tu l'as
bien
acheté quand tu
traduit, mais
étais
en
à
tout cas,
Londres?
eh ben non, même pas dans ma librairie habituelle, j'ai trouvé. Et j'étais surprise parce qu'il était au milieu des livres en français. Et du coup, voilà, je le recommande chaudement parce que c'est beau et c'est une excellente histoire. Et j'espère qu'en français, c'est aussi bien écrit parce que vraiment, je radote, mais vraiment, l'écriture de Neil Gaiman est magnifique.
Note, ça s'appelle La Belle et le Fuseau. Ok. Ouais, je suis un peu traumatisée par les fuseaux depuis La Belle au bois dormant de Disney. Si bien que plus tard, quand j'ai appris que un fuseau, enfin une robe fuseau, ça voulait dire aussi une robe genre serrée, dans ma tête
Ouais.
c'était non, dangereux,
Désagréable.
piquant.
On veut pas ça.
Alors que là-bas, c'est juste un objet qui sert à enrouler le fil.
Et alors
C'est
pour la blague,
incroyable.
du coup, je l'ai lu en anglais et comme parfois quand je suis chez moi toute seule, je lis les histoires à voix haute et dedans il y a des personnages de nains donc je me suis amusée à les lire avec des accents écossais et je rigolais toute seule. Voilà.
Oh.
J'espère que vous aussi, quand vous êtes seule, vous lisez vos livres à voix haute. Parce que c'est vraiment très
Pas
drôle.
tout le temps, mais des fois. Surtout quand je lis
Ouais, au bout
en
d'un
anglais
moment,
parce
t'as mal
que
à
ça
la
m'aide.
voix, du coup t'arrêtes. Mais
Et aussi parce que ça prend plus de temps à lire à voix haute qu'à lire dans sa tête.
ouais.
Donc c'est un peu frustrant. Mais oui, j'aime bien faire ça en anglais, surtout les livres un peu difficiles que j'ai du mal. Quand j'ai lu un Jane Austen en anglais pour la première fois, la seule manière que j'ai trouvée de rester dans le texte, c'était de le lire à voix haute avec
C'était
un
le
accent.
lire. Tu t'es
Avec un
fait ton
accent un
propre
peu chic.
audiobook. Mais ouais, c'est
Exactement.
bah en plus là, comme c'est un livre pour plus, enfin c'est très adapté aux enfants. Donc ça fait vraiment, je raconte mon conte en faisant les voix des différents personnages.
Trop bien. Je
Et
valide.
donc, quelle est ton anecdote?
Eh ben, mon anecdote, c'est que je vais vous raconter un deuxième sort possible avec un de ces symboles islandais dont je parlais tout à l'heure, parce que franchement,
Trop bien. Celui-là, je le connais pas du coup.
c'est des pépites. Et non, celui-là, je le connais pas, et surtout celui-là, il est pire que l'autre. Moi, je pense qu'il n'y a pas
Non.
grand-chose qui est pire que celui-ci. Donc c'est parti. Celui-ci, je l'ai trouvé sur Wikipédia. Il y a une liste, c'est symboles magiques islandais, je crois. Il y a une liste de
Ok.
symboles qui, du coup, pareil, ont été, enfin, viennent de ce fameux musée de la sorcellerie en Islande. Et donc, tu as des choses donc très classiques, et tu as vraiment le truc le plus spécifique que j'ai trouvé. Ça s'appelle le, alors, Smjörnutur. J'ai regardé, ça se dit comme ça en islandais, ça
Ouais,
s'écrit donc
oh, tu l'as super bien prononcé.
Smjörnutur. Et donc, ça signifie en français nœud comme un nœud de beurre. Voilà, donc ça, c'est pour
Hein?
l'introduction. Oui, un nœud de beurre. Et donc, ça sert à,
C'est
je
breton.
cite, transformer le beurre des Tilbury. Qu'est-ce que c'est que les Tilbury, tu vas me dire?
Qu'est-ce que c'est que les Tilbury?
Merci. Toujours selon la source principale de ces articles, donc le musée de Holmavik, les Tilbury sont des créatures folkloriques. On les appelle aussi des snakkur, Snakur. Retenez que dedans, il y a snack, c'est important. Leur
Okay.
truc, c'est de chourer le lait des animaux de la ferme, des voisins, et de transformer ce lait, ou cette crème, j'imagine, en pièces d'or. Et dans la légende, ces créatures, ils ne peuvent être qu'invoquées, on peut les fabriquer que soi-même, mais surtout, ils peuvent être faits que par des femmes. Ce sont seulement les femmes qui en ont le pouvoir, ou selon les articles, selon les sources, des sorcières. Donc,
Ouais.
c'était apparemment plutôt de la sorcellerie que de la magie. Enfin, on les invoquait pas, on les fabriquait soi-même. Donc la recette va vous
Ok.
étonner.
Ouais.
D'abord, il faut qu'une dame aille déterrer la côte d'un mort, dans un
Ok.
cimetière, parce que visiblement c'est important, et un jour de la Pentecôte. Eh oui, Pentecôte, côte.
Côte.
Je sais pas pourquoi le jour de la Pentecôte, mais en tout cas c'est plus festif, j'imagine. Donc ça
Après, c'est
c'est
peut-être
donc
un truc
s'il y a la
religieux
Pentecôte,
parce que,
oui.
genre, dans la Bible, Ève est née
Tu
de la
connais
côte de
quoi
Adam.
la Ah, classe. Ouais, chic. Bah du coup oui, ça devait être post invasion chrétienne en Islande quoi.
Les moyens.
Mais enfin en tout cas ce rituel vient de là, mais c'est possible que le Tilbury vienne de bien avant.
Oui.
Et ensuite c'est pas précisé s'il faut laver la dite côte ou pas, ou si c'est mieux qu'elle reste dans son jus, si je puis dire. Mais il fallait la mettre dans de la laine grise et la placer entre ses seins.
Ok.
Voilà. Pendant 3 semaines.
Pourquoi pas? Ah, c'est super lourd.
Ouais, et là, ça se passe visiblement après que la chrétienté vienne en Islande, parce qu'il fallait que tu ailles à la messe et que pendant les 3 prochaines messes du dimanche, tu... Putain, c'est dégueulasse. Tu craches 3 fois le vin de la messe dans ton paquet de laine, dans ton décolleté.
Entre tes
Dégueulasse,
seins.
entre tes seins, pour que le Tilbury prenne vie. Mais c'est pas fini. Ensuite, il fallait s'occuper de nourrir le truc comme un Tamagotchi jusqu'à ce qu'il grandisse et ce qu'il devienne, d'après ce que j'ai vu, une espèce d'énorme ver, un peu comme un bonhomme Michelin poilu, gris, avec à chacune des extrémités une tête, donc deux têtes, de vieux trolls roses dégueulasses avec des
Ouais.
dents pointues.
Mais
Voilà.
il y a rien qui
Et
va.
donc, ce truc que je viens de décrire, il fallait le nourrir avec son propre sang. Donc, tu devais, je cite, tailler un téton dans l'intérieur de ta cuisse. Voilà. Ça, c'est un truc récurrent quand tu lis des choses sur comment les sorcières nourrissent leurs familiers. C'est qu'elles ont
Les
des
tétons.
tétons sur leur corps. Ouais, et c'est pour ça que les personnes avec des troisièmes tétons étaient malheureusement très accusées de sorcellerie. Et que c'était soi-disant l'endroit avec lequel elles nourrissaient leurs familiers. Bref, dégueulasse.
Super.
Et sur la page Wikipédia, c'est aussi écrit que le Tilbury s'y accroche, je cite, pour s'y nourrir. Donc c'est pas écrit qu'à un moment il descend de là. C'est juste écrit qu'il s'accroche. Donc peut-être qu'il y reste, je ne sais
Okay.
pas, c'est dégueulasse. Et donc quand le fameux Tilbury est grand et qu'il peut aller voler du lait, et bah toi tu utilises le fameux symbole magique pour transformer le fameux beurre, enfin ou la crème que tu en as fait, en or. Voilà. Mais c'est pas fini, parce que c'est dégueulasse, c'est jusqu'au bout.
Ah, ça s'arrête pas.
Quand à la fin de ta vie, voilà, t'as assez d'or et flemme de nourrir ton gros ver dégueu, tu peux t'en débarrasser, mais uniquement d'une manière dégueu. Il faut, je cite, lui donner l'ordre de rassembler tous les excréments des bétails dans 3 pâturages des hauts plateaux.
OK.
Le Tilbury va se fatiguer excessivement et va
Ah
exploser,
bah oui.
laissant seulement une côte humaine à côté du tas de crottes. Le beurre issu du lait
OK.
tomberait en morceaux si le signe magique, le Smjörnutur, le nœud de lait, a été dessiné dessus. Voilà. Et donc là, j'ai pas compris si c'était sur les excréments ou sur le verre qu'il fallait le faire. Mais à ce niveau, j'ai plus trop envie de savoir. Ma curiosité,
de toute façon, on va jamais suivre le tuto.
Ah non.
Il y a beaucoup trop d'étapes.
Et je vais pas aller déterrer une côte, en fait, dans un cimetière.
C'est comme quand tu regardes une recette et que c'est première étape, éplucher trois oignons et t'es là. Oh non, je l'aime, en fait.
Non, mais là, je propose qu'on remplace absolument toutes les étapes par d'autres trucs moins chiants. Et ça fera rien, tant mieux, parce que ça a l'air dégueulasse.
Voilà. Moi, je propose pendant 3 semaines, on fait rien.
Ouais. Et on crache rien.
Respecter la durée.
Aucune messe.
Non, s'il vous plaît.
Ça me dégoûte. Voilà. C'était la sorcellerie islandaise.
C'est sur ces bons mots qu'on peut terminer, je pense.
Oui, je pense qu'on peut terminer que comme ça. Parce que là, on vous a tellement dégoûté que vous n'avez plus envie de nous écouter.
Et du coup, vous pouvez nous retrouver sur vos plateformes de podcast favorites, mais aussi sur éventuellement Twitter, mais ça sert à rien, Facebook, mais ça sert à rien, et Instagram.
Oui. Voilà, des fois, on met des stories. Merci à Craig, notre ingé son. Est-ce qu'on explique Craig ?
Non.
Non, on n'explique pas Craig. Et quand est-ce qu'on va l'expliquer ? On l'expliquera jamais.
On le présentera le jour où il voudra bien.
Ok.
Et on remercie aussi Moon and Sun pour la musique.
Pour la musique.
Et Marion pour les illustrations.
Et mon chat pour sa présence. Il est là à chaque enregistrement. Oui. Pas grand chose, mais je pense qu'il chante tout.
Oui.
Et écoutez,
N'oubliez pas de rester nager.